Laudetur Jesus Christus.
Le magazine de Radio Vatican. Présenté par Romilda Ferrotto.
Nous allons parler du Vietnam dans ce magazine, un pays qui se prépare à accueillir le ministre français des Affaires étrangères, un pays où la liberté d'expression et de culte est soumise à des restrictions, un pays où les catholiques célèbrent le 25e anniversaire de la canonisation de 117 martyrs du pays. Nous reviendrons dans cette émission sur les propos tenus par le pape François à propos des homosexuels, des propos qui ont eu un impact considérable, une approche pleine d'amour et de douceur, mais qui ne marque pas un changement de cap, selon le cardinal Dolan. Nous verrons également que les évêques suisses défendent le droit pour les catholiques de s'exprimer publiquement. Ils espèrent être écoutés avec la bienveillance qui s'impose dans toute société démocratique. La conférence de presse du pape François dans l'avion qui le ramenait de Rome à Rio continue de susciter de nombreux commentaires, en particulier ses propos sur l'homosexualité. À tel point que le très influent cardinal de New York, Timothy Dolan, a tenu à avertir dans les colonnes du Catholic Herald que le pape n'avait pas changé l'enseignement de l'Église sur la sexualité. Un point de vue du reste partagé par les analystes à Rome qui ne voient pas de changement radical de doctrine dans les paroles du pape Jean-Baptiste Cocagne.
Si une personne est homosexuelle et qu'elle cherche Dieu avec bonne volonté, qui suis-je pour la juger ? Les homosexuels ne devraient pas être marginalisés, ils sont nos frères. Ces paroles, prononcées par le pape lundi, reflètent, selon le cardinal Dolan, une approche miséricordieuse et compatissante de l'enseignement de l'Église. Ces paroles peuvent avoir été considérées comme nouvelles et innovantes, mais l'archevêque de New York ne partage pas cette interprétation. Selon lui, le pape François a voulu redire que si certains actes peuvent être mauvais, il faut toujours aimer et respecter les personnes et surtout les traiter avec dignité. Le cardinal Dolan regrette à ce propos qu'on présente une image caricaturale des papes précédents qui n'auraient pas eu cette même attitude. Un constat partagé par les analystes. Ainsi, le journaliste français Henri Tinck souligne que la déclaration du pape François n'annonce pas un changement de position de l'Église, mais une approche plus nuancée du phénomène, une bienveillance de ton et une compréhension inconnue jusqu'à ce jour à ce niveau de responsabilité dans l'Église. Quant au mariage gay, pas de surprise, la position de l'Église, le pape François l'a réaffirmée, est bien connue. Du reste, lorsqu'il était archevêque de Buenos Aires en 2010, il s'était lui-même opposé à la légalisation du mariage homosexuel.
Voilà, l'Église condamne les attitudes et orientations homosexuelles. Elles sont qualifiées dans le catéchisme universel de 1992 d'objectivement mauvaises et désordonnées. Mais l'Église exige le respect des personnes homosexuelles et le rejet de toute homophobie. Les évêques suisses estiment que l'Église a le droit de s'exprimer publiquement et que sa voix est indispensable dans la société. Ils le soulignent dans un message publié à l'occasion de la fête nationale, alors que certains politiques, regrettent-ils, voudraient la faire taire. Politique migratoire, repos dominical, défense de la vie dès la conception jusqu'à sa fin naturelle, quand les évêques se prononcent sur des questions de société, ils sont souvent critiqués. Thomas Chabol.
Dans une société pluraliste comme celle de la Suisse, certains estiment que l'Église, comme les autres religions, devrait s'abstenir de prendre position publiquement. Selon les évêques suisses, ils oublient combien l'Évangile a façonné la société et minimisent l'apport social du christianisme, notamment en ce qui concerne le pardon, l'attention aux plus faibles, l'intégration des marginaux. Ils oublient aussi que les immigrés musulmans ne craignent pas une société chrétienne, mais une société qui ne laisse pas de place à la religion. Le christianisme invite à dépasser l'égoïsme, souligne le texte. C'est au nom de la dimension spirituelle de l'être humain que des chrétiens ont résisté au matérialisme communiste et nazi au XXe siècle. Les gestes inspirés consciemment ou non par l'Évangile constituent d'une certaine manière une prise de position chrétienne publique. Les évêques reconnaissent que le christianisme n'est plus considéré comme la religion de base de la société actuelle et que la crédibilité des positions de l'Église a été affaiblie par les négligences et les défaillances de certains de ses membres. Mais ce n'est pas une raison pour ne pas annoncer l'Évangile. faire. Si les évêques s'expriment publiquement sur des sujets de société, ce n'est pas seulement pour éclairer les catholiques à propos de leur foi, mais aussi pour proposer à tous l'apport d'une vision chrétienne. Ils continueront de le faire en souhaitant être écoutés avec la bienveillance qui devrait caractériser toute société démocratique.
Assise, la ville de Saint-François qui se prépare à accueillir le pape le 4 octobre prochain, célèbre la fête du pardon, comme chaque année à la même date. Deux jours de festivités, jeudi et vendredi, en souvenir d'une nuit de l'année 1216, pendant laquelle le Christ apparut à Saint-François. Depuis près de 8 siècles, cette fête draine des milliers de pèlerins vers la petite église de la Portioncule. Ils viennent demander à Dieu le don de l'indulgence pour leurs péchés, obtenus par Saint-François. L'ouverture solennelle des journées d'indulgence s'est déroulée jeudi matin dans la basilique Sainte-Marie-des-Anges. La messe a été présidée par le ministre général de l'Ordre des Frères Mineurs, le père Michael Perry. Aux célébrations habituelles, processions, vêpres, pèlerinages, a été ajoutée une rencontre sur le thème de la famille, une exposition sur l'art qui lit la Bible, une réflexion du philosophe italien Massimo Cacciari, ainsi que des temps de convivialité. La traditionnelle marche franciscaine est attendue sur place vendredi, en début d'après-midi. Je vous le disais en titre, la communauté catholique vietnamienne s'apprête à célébrer les 25 ans de la canonisation par le pape Jean-Paul II de 117 martyrs du pays. En France, la communauté vietnamienne se retrouvera du 2 au 4 août au sanctuaire marial de Lourdes pour un pèlerinage qui devrait rassembler près de 1000 pèlerins. Si 7% des habitants de ce pays d'Asie sont de confession catholique, il serait 30% à le revendiquer chez les 300 000 Vietnamiens résidant en France. Tous les participants espèrent en tout cas que leur message de foi sera entendu dans leur pays d'origine. Parmi les participants à ce pèlerinage, le père Luc Minh A nous décrit l'importance de ce rassemblement.
Le premier but recherché par les aumôniers vietnamiens, c'est d'abord de rassembler tous les catholiques en diaspora pour faire mémoire des martyrs du Vietnam et plus largement tous ceux qui ont été, au cours des siècles, persécutés d'une façon ou d'une autre, emprisonnés au nom de leur foi. Et ensuite, bien sûr, pour exprimer notre solidarité, notre communion avec tous ceux qui restent dans le pays, tous les catholiques vietnamiens. Et nous voudrions bien qu'ils sachent que les Vietnamiens à l'étranger ne les oublie pas et nous espérons que notre rassemblement ici en France suscite un certain enthousiasme ou des initiatives que les catholiques vietnamiens au Vietnam pourraient prendre pour célébrer cet événement.
Vous célébrez donc les 25 ans de la canonisation de 117 martyrs. Qui sont-ils ces martyrs et qu'est-ce qu'ils représentent concrètement pour l'Église vietnamienne ?
Sur 117 martyrs du Vietnam répartis en 3 siècles, 17, 18, 19e. Il y a 96 Vietnamiens, prêtres, religieux, religieuses, laïcs. Ensuite, il y a 11 missionnaires espagnols et 10 français. En effet, pour les catholiques vietnamiens, les martyrs ont une importance capitale parce que l'Église du Vietnam, c'est une jeune Église. Grosso modo, c'est 4 siècles. Dès le commencement, l'Église du Vietnam a été vraiment persécutée et dont l'importance du culte des martyrs au Vietnam. Quasiment dans tout le diocèse, il y a des martyrs vietnamiens ou bien français ou espagnols. Donc, ceci explique l'importance qu'on accorde à ce pèlerinage.
Est-ce que leur histoire a encore un écho pour les catholiques vietnamiens, sachant que l'histoire des catholiques dans votre pays est assez douloureuse ? Est-ce qu'il y a une grande liberté religieuse pour les catholiques au Vietnam ou est-ce qu'il y a encore des efforts à faire par les autorités ?
On ne pourrait plus parler de la persécution au sens d'origine du terme, mais l'Église est toujours sous surveillance, entre guillemets, parce que le régime communiste, par définition, c'est un régime laïque, un régime athée, et donc le parti contrôle l'Église catholique en particulier, mais aussi toutes les religions en général. Il y a le bouddhisme, il y a d'autres religions comme le caudaïsme, le Huahao, etc. Donc il y a en effet, depuis 1975, à la fin de la guerre, il y a en effet quelques souplesses, ne serait que la reconnaissance des 6 séminaires au Vietnam. Il y a aussi l'autorisation pour les prêtres, les religieux, les religieuses de faire des études à l'étranger. Néanmoins, tout ce qui concerne la formation des futurs prêtres, leur ordination, tout ce qui concerne la nomination des évêques sont soumis à des contrôles assez stricts de la part du régime.
Des propos recueillis par Maxime Babser. Le ministre français des Affaires étrangères, Laurent Fabius, est attendu justement au Vietnam, ce pays de près de 90 millions d'habitants et l'un des plus puissants en Asie du Sud-Est. La semaine dernière, Barack Obama avait reçu à la Maison-Blanche son homologue vietnamien. Le président des États-Unis l'avait interpellé sur la liberté d'expression et de culte. À cette occasion, des centaines de membres de la communauté vietnamienne réfugiée aux États-Unis avaient manifesté pour réclamer plus de pression de la part des Américains sur ces sujets. Alors, l'Occident a-t-il tort de conclure des contrats commerciaux avec des pays qui bafouent les droits élémentaires? Selon Claire Tran Thilien, historienne spécialisée sur l'histoire du Vietnam contemporain, maître de conférences à l'Université Paris Diderot, les échanges économiques peuvent, au contraire, permettre de mieux influencer les gouvernements partenaires.
Pour Obama, comme pour son prédécesseur George Bush, qui a aussi fait la même politique en réalité depuis 2006, c'est un moyen de pression sur les Vietnamiens qui ont absolument besoin des Américains pour continuer leur intégration économique. Le Vietnam est dans une situation économique difficile, aussi dans une situation de contestation interne, avec un certain nombre de personnes dans la société civile qui critiquent de plus en plus le monopole du parti. Et la justification du parti pour rester, c'est de dire nous ouvrons le pays, nous développons l'économie, et la prospérité, et donc ils ont absolument besoin des Américains. C'est sur ça que ça se joue, et les Américains ont essentiellement mené cette politique, qui est de dire, plus il y a de contacts économiques, plus les libertés vont s'améliorer, et on peut faire pression sur eux.
Est-ce que les Vietnamiens peuvent écouter les États-Unis alors qu'ils n'ont pas la même conception de la religion ?
Ils ont opté pour la politique d'ouverture économique depuis 1986 et ils ont besoin de cette ouverture. Ils ne vont pas revenir dessus. Donc, il n'y a pas besoin nécessairement de s'entendre sur le fond de la religion, mais on peut dire quand même que depuis 1989, même dans les discours officiels du parti, on a changé la vision de la religion. Avant 1989, il y avait une vision très classique, religion opium du peuple, etc. Depuis 1989, un certain nombre de textes ont évoqué l'importance que les religions peuvent apporter à la construction nationale et au rôle positif que peuvent mener les religions. Donc ils ont déjà changé le discours et dans le cas des relations entre le Vietnam et le Saint-Siège, il y a depuis 20 ans des rencontres entre le Vatican et il y a même eu depuis 2011 un représentant du Vatican au Vietnam. Donc il y a vraiment une différence dans la conception de la religion due au contexte politique et militaire du Vietnam.
Mais concrètement, comment Barack Obama, les pays européens, peuvent-ils accompagner le Vietnam pour que le Vietnam améliore la liberté religieuse et les droits de l'homme ?
Il y a toutes sortes de coopérations très concrètes entre, par exemple, un institut qui s'appelle Institute of Global Development, qui a été créé par le fondateur de cette commission, créée par le gouvernement américain pour la surveillance de la liberté religieuse dans le monde. Et ce Institute of Global Development organise des formations pour les fonctionnaires du Bureau des affaires religieuses à Hanoï, mais également aux États-Unis. Donc il y a eu ces dernières années des allers-retours avec des formations qui durent plusieurs semaines à Hanoï et à Washington, proposé par le gouvernement américain, où ils discutent des questions de liberté religieuse et des questions de droit. Il y a également aussi des échanges similaires qui ont été faits entre la France et le Vietnam. Ils ont été invités par le gouvernement vietnamien pour discuter de la laïcité française et comment gérer le fait religieux au Vietnam à partir de l'expérience française. Le modèle français intéresse les Vietnamiens parce qu'il y a un régime de laïcité très strict, avec un régime de laïcité qui contrôle quand même de religion aussi. Donc il y a une volonté d'essayer d'adapter, mais ça prend du temps. Il y a des collaborations qui existent et dont on parle moins, mais qui se font très concrètement à Hanoï et aussi en France et à Washington.
Mais est-ce qu'on ne peut pas craindre que, en fait, le Vietnam fasse des efforts sur les questions religieuses, sur les questions des droits de l'homme, et qu'une fois la reconnaissance internationale acquise, la liberté religieuse et les droits de l'homme se dégradent à nouveau?
Qu'est-ce qui s'est passé, justement? Dans les années 2008-2009, le Vietnam a pu intégrer l'OMC, c'était un de ses grands buts. Ils ont même été nommés au Conseil de sécurité dans un siège provisoire en 2009. Ils ont obtenu la reconnaissance internationale et justement, depuis cette date-là, il y a eu une dégradation. Mais dans le contexte actuel de crise économique qui risque de toucher le Vietnam, de ses problèmes avec la Chine, et dernier point, cette tendance au sein de la société civile à dire plus ce qu'on pense et de critiquer le parti, la justification pour que le parti reste au pouvoir, c'est de dire « nous assurons la prospérité du pays ». Ils ont vraiment besoin de cette prospérité économique pour rester au pouvoir.
Par rapport à la population en elle-même, est-ce qu'elle voit une différence? Est-ce que son quotidien a quand même changé ces dernières années?
Il y a eu indéniablement un développement économique depuis 1989. Le Vietnam était dans une situation de très grande pauvreté. Globalement, il y a eu une amélioration, mais parallèlement à cela, il y a eu une exacerbation des différences sociales avec des gens qui sont devenus très riches et des gens qui sont restés beaucoup plus pauvres. Donc, au niveau économique, c'est les deux. Il est aussi incontestable que la pratique religieuse s'est énormément développée depuis l'année 90, encore une fois sous la pression des Occidentaux et des Américains en particulier. Et on voit qu'au fur et à mesure, la société civile grignote un certain nombre d'espaces pour s'exprimer, mais aussi pour agir. On est dans une période de grande transformation. Bien sûr, la situation n'est pas idyllique, mais je dis que le Parti communiste ne pourra pas se maintenir au pouvoir et développer le pays économiquement sans la collaboration des Occidentaux. Après qu'il y ait des ralentissements, c'est tout à fait évident, mais on ne peut pas revenir avant 89.
Claire Tran-Tilien, maître de conférence à l'Université Paris Diderot, interrogée par Audrey Radondi. Au Soudan, la vie est de plus en plus dure pour les minorités religieuses. La situation des chrétiens se dégrade, l'hostilité grandit à leur égard. Depuis la séparation du pays en deux entités distinctes en 2011, des rebelles continuent de lutter contre le gouvernement soudanais. En réaction, Khartoum a appelé la population à la guerre sainte et annoncé un renforcement de l'application de la charia, la loi islamique, ce qui s'est traduit par une forte augmentation des persécutions à l'égard des chrétiens. La chasse aux convertis notamment s'est intensifiée. L'apostasie, à savoir l'abandon de l'islam pour une autre religion, est passible de la peine de mort. En l'espace de deux ans, 170 personnes ont été incarcérées pour apostasie, même si personne n'a été exécuté pour ce délit au cours des 20 dernières années. Selon le groupe Barnabatim, des églises ont été attaquées ou détruites, des écoles chrétiennes fermées, des missionnaires expulsés, des chrétiens ont perdu leur travail, leurs biens sont confisqués. En avril dernier, le régime de Khartoum avait annoncé le gel des permis nécessaires à la construction de lieux de culte chrétiens. À la fin du mois de juin, la police a pénétré dans les bureaux de l'église évangélique presbytérienne au Soudan pour des contrôles administratifs ayant pour but de placer la propriété sous séquestre. Plus de 300 000 chrétiens vivraient à Khartoum, les autres habitent principalement dans les régions en conflit des monts Nouba et du Nil Bleu. Au Sud-Soudan, par contre, la persécution contre les chrétiens est désormais terminée dans la plus grande partie du pays. L'église se reconstruit petit à petit, mais le pays est très pauvre. Absence d'eau potable, nourriture contaminée par les insectes, rackets des geôliers qui confisquent les plats portés par les familles et les revendent aux détenus. C'est ce qui se passe dans la prison de Saltillo au Mexique et c'est l'évêque du lieu, Mgr Raúl Vera López, qui dénonce les conditions de détention dans un entretien à l'agence Fides dans lequel il brosse un bien sombre tableau. Du coup, les explosions de violence sont récurrentes dans cette prison. Le 29 juillet dernier, une bagarre entre gardes et détenu s'est soldé par de nombreux blessés. L'évêque reproche à la Commission pour les droits de l'homme de ne rien faire pour améliorer la situation carcérale au Mexique. Avant de terminer, je vous signale les intentions de prière pour le mois d'août. Intention générale pour que les parents et les éducateurs aident les nouvelles générations à grandir avec une conscience droite et une vie cohérente. Intention missionnaire pour que les églises particulières du continent africain, fidèles à l'annonce de l'Évangile, encouragent la construction de la paix et de la justice. C'est la fin de notre émission, mais vous pouvez nous écouter, nous réécouter, nous lire à tout moment sur notre site internet à l'adresse radiovaticana.va. Rejoignez-nous également sur Facebook Radio Vatican en français, sur Twitter et sur nos applications. Et si vous avez des questions ou des idées, une adresse magfra@vatiradio.va. Merci de votre fidélité.